Les rencontres d'Edmond Morel. Véronique Biefnaud, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication de votre avant-dernier roman en date, Sous les ruines de Villers, paru chez Luc Pire. Alors, c'est un roman qui s'inscrit dans une collection qui vaut peut-être la peine d'être évoquée. C'est Kiss and Read et l'autre volant de la collection, c'est Kill and Read. Alors, Kiss and Read.
Oui, alors le tout est regroupé sous le nom un peu clin d'œil de les nouveaux romans de gare. Parce que, donc forcément, Kiss and Read, Kill and Read, on a assez vite compris qu'il était question de s'embrasser d'un côté et de s'entretuer de l'autre. Et Luc Pire, en l'occurrence Laurent Souzio, qui a repris la direction de la maison d'édition, m'a proposé d'écrire un Kiss and Read, donc un roman sentimental. C'est vrai qu'a priori, je me suis dit « Oh zut, j'aurais plutôt préféré écrire un Kill and Read ». Mais bon, ça c'était la première des petites obligations. La seconde étant que ça devait se dérouler en Belgique et dans une ville nommément citée, facile à reconnaître, etc. Bon. Et la troisième, et probablement la plus contraignante, en apparence en tout cas, était que ça devait faire 144 000 signes. Ah, c'est amusant parce que bon, je n'ai pas une expérience gigantesque et surtout c'était la première fois qu'on m'imposait comme ça trois contraintes très nettes et je me suis dit dans le fond c'est peut-être amusant et effectivement ça l'a été. Donc de me mettre dans ce schéma-là, de raconter une histoire sentimentale qui se passe en Belgique, a priori francophone, en l'occurrence à Villers-la-Ville plus exactement, dans les ruines de Villers, plus exactement sous les ruines de Villers.
Oui, qui est le titre du roman que je me rends compte maintenant de n'avoir pas cité lors de la présentation. Donc le titre est Sous les ruines de Villers.
Voilà. Donc ça se passe à Villers-la-Ville, c'est sentimental et ça fait effectivement 144 000 signes. Bon. Et je me suis vraiment amusée à jongler avec ces impératifs-là.
Alors ça vous a permis, parce qu'on oublie maintenant que vous avez cette étiquette de romancière qui supplante toutes les autres, on oublie que vous êtes aussi actrice, comédienne de théâtre, metteur en scène de théâtre, décoratrice de théâtre. Donc l'univers du théâtre est un univers qui vous est proche. Est-ce que, et dans quelle mesure, écrire un roman dont l'environnement est celui du théâtre vous a fait regarder le théâtre de manière un peu différente ou un peu plus détachée ou fait comprendre certaines démarches que les gens de théâtre ont?
En tout cas, ça m'amusait de lancer un pont, une passerelle entre ces deux univers, ces deux occupations qui sont les miennes. Et d'où le choix forcément de Villers-la-Ville, puisque c'est un lieu d'abord que je connais très bien puisque j'habite à côté. Et on sait très bien que ce lieu abrite des spectacles qui sont alors plutôt du théâtre, ou on peut qualifier ça de son et lumière, enfin bon, ça dépend comment on voit la chose. Mais en tout cas, on est dans un univers artistique. Et ça m'amusait de situer dans ces ruines et tout au long de ce roman, les répétitions non pas d'une pièce de théâtre, mais d'un opéra. Donc qui me permettait aussi d'aborder un petit peu un domaine que j'aime énormément, qui est la musique. Mais effectivement, les décors, les costumes, l'ambiance des répétitions avec les déceptions, avec les espoirs, avec les soirées qui n'en finissent pas. Bon, tout ce contexte-là que forcément je connais bien et que j'ai beaucoup pratiqué. Voilà, ça m'amusait de l'évoquer en tout cas, puisque ça n'est pas le centre de l'histoire, mais c'est le contexte dans lequel l'histoire se déroule, qui est une histoire d'amour, oui, au final, mais c'est plutôt une histoire de nouveau relativement initiatique, hein, puisque le personnage va se découvrir et découvrir la vie au cours de ce récit, grâce à une intervention de quelqu'un qui est visiblement très fort amoureux d'elle.
Alors, on retrouve dans ce roman... Pas un archétype, mais une figure de femme que l'on avait déjà découverte dans vos deux premiers romans parus chez Héloïse d'Ormesson. Personnage d'une femme relativement mise à distance des autres par des traumatismes vécus dans le passé, pour essayer de synthétiser. Alors, elle s'appelle Gaïa. Elle a vécu un accident particulièrement douloureux quand elle avait 13 ans. D'où vient cette fascination pour la mise à distance ou les murailles que certaines personnes doivent construire autour d'elles pour continuer à vivre?
Oui, c'est quasiment une exclusion sociale, hein, que ce soit dans le cas de Gaïa, dans le cas de Naël, hein, dans les deux premiers tomes de ma trilogie paru chez Héloïse d'Ormesson, ou dans le cas de Eliol, le dernier de mes personnages, mon dernier roman Animal Terre. Mais j'avoue que je le constate comme vous. C'est encore une des choses que m'apprend l'écriture. Ce sont des personnages qui m'intéressent, qui m'interpellent. Leur vision du monde me trouble. Et savoir pourquoi ils ont tellement de mal avec notre société me semble intéressant. Mais c'est vrai que c'est une constante. Ce sont toujours des personnages qui ne trouvent pas leur place, qui, pour des raisons connues ou pas connues d'ailleurs, je pense à Animal Terre, ça sera dévoilé.
On ne le connaît pas encore dans Animal Terre, voilà. Dont le premier tome vient de sortir.
Voilà, voilà. Donc ces raisons ne sont pas forcément évidentes, mais il est clair que ça en aboutit à cette exclusion, soit subie, soit voulue par le personnage central. Alors c'est vrai que si je m'allonge un peu dans mon divan et que je joue à la fois celui qui questionne et celui qui est questionné, je ne trouve pas trace de ça dans ma propre vie. Ça n'a rien d'autobiographique au premier degré. Néanmoins, je dois bien constater que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Donc voilà. Mais j'ai pas vraiment d'explication à donner.
Est-ce que pour revenir, et je ne veux pas jouer au psychanalyste d'occasion, est-ce que et je reviens à ma première question sur votre carrière de comédienne et votre appartenance au monde du théâtre, est-ce que être comédien n'est pas aussi une certaine manière de mettre un rempart entre soi et le monde extérieur, ou peut-être d'essayer par le biais d'autres personnes que soi-même de le comprendre?
Oui, certainement. Le masque et le personnage, le rôle qu'on endosse est forcément toujours un masque, est très protecteur. D'ailleurs, personnellement, je ne veux pas parler au nom des autres, je ne sais pas comment ils le vivent, mais je sais que personnellement, en tant que comédienne, je peux sans trop de problèmes affronter n'importe. Je ne dis pas que j'en ai le talent, hein. je n'ai pas peur d'essayer d'incarner n'importe quel personnage. Même quelqu'un dont je ne partagerai pas les vues, à condition que, au final, le texte soit en accord avec ce que je pense, par exemple. Mais je pourrais très bien interpréter un personnage que je puisse détester par ailleurs. Bon. En revanche, quand on n'est pas à l'abri derrière ce masque, il est beaucoup plus difficile, effectivement, d'affronter le regard des autres. Je pense, par exemple, à la télévision, où c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, une interview. C'est-à-dire que ce fameux masque social, il est quand même toujours là. Hein, quand je passe en télévision en interview, il est là. Mais c'est trompeur. Les personnes voient la personne qui est en train de répondre, par exemple, à l'interview, de la même façon qu'ils verront ou qu'ils voient la comédienne jouer. Et c'est très difficile de savoir où on en est dans l'honnêteté, j'ai envie de dire, dans la sincérité. Oui, ce rapport au masque est quelque chose qui forcément nous ramène au théâtre, oui.
La différence entre la télévision et la radio, c'est que le visage, l'apparence de la personne n'apparaît pas. Donc le masque n'apparaît pas à l'image, en quelque
sorte. Pas aussi fort, en tout cas. Et en réalité, moi, j'adore la radio. De tous les médias, c'est celui que je préfère, qui laisse le plus de liberté et justement le moins de, voilà, de contraintes, de ne pas devoir gérer son image. Y a beaucoup moins de techniques à gérer. On peut se consacrer davantage à l'essentiel. Et puis à la voix aussi, on entend la voix, c'est quand même important.
Alors le troisième élément que j'aimerais que vous évoquiez à propos de ce roman Sous les ruines de Villers, c'est l'importance qu'il y a pour vous d'inscrire dans la narration des moments où le mystère s'installe, les moments où l'énigme se fonde dans une sorte de réalisme magique. Ici, il s'agit d'une espèce de statue qui se trouve découverte sous les ruines de Villers, dans une espèce de cave ou de cellier. Est-ce que c'est une manière de procéder qui stimule l'imagination, à la fois la vôtre et celle du lecteur?
Je l'espère. Ce n'est pas un procédé, c'est un goût. J'aime ça. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait l'apparence des choses et puis certainement autre chose derrière ou à côté ou simultanément. Je crois, depuis l'enfance, eu ce sentiment-là, que je voyais une chose mais qu'elle n'avait pas forcément la forme que je lui attribuais ou que peut-être que dans une seconde, quand j'aurais cligné des paupières, elle aurait changé de forme. Enfin, j'ai toujours eu ce sentiment que les choses n'étaient pas ce qu'elles avaient l'air d'être, nécessairement. Et voilà, quand je peux me vautrer dans ce délicieux sentiment, parce que c'est plutôt agréable, je le fais. Et ça me permet de faire un petit peu vagabonder le récit exactement dans ce réalisme magique, parce que j'ai plus de peine avec la science-fiction, par exemple. J'ai plus de peine à imaginer un univers ou à me plaire, à lire ou à écrire un univers qui serait complètement autre. Je préfère le réel décalé. On est dans une trame qui est quotidienne, contemporaine d'ailleurs. Jusqu'à présent, j'ai écrit toujours des récits contemporains. Mais voilà, il y a un petit élément qui fait sortir des sentiers battus et qui modifie le réel.
Oui, on est dans le réalisme magique, qui est une des écoles propres à la Belgique, en tout cas la Belgique francophone.
Oui. Voilà, je pense que ça a laissé des traces même inconscientes, hein, probablement, oui.
Alors, Véronique Biefnaud, pour clôturer cette interview, j'aimerais que vous fassiez une sorte de petit bilan de votre carrière littéraire, puisque vous en êtes au troisième roman, au quatrième roman publié, puisque Ellie Hall, L'Animal Terre, a succédé dans vos publications à ce livre dont nous venons de parler. Les deux premiers romans ont très bien marché, publiés chez Loïs d'Ormesson et, dans ce qui est une forme de pléiade, Le Livre de Poche. Alors, vous en êtes où dans votre écriture, dans cette nouvelle position d'écrivain dans laquelle vous vous trouvez?
Mais j'ai l'impression là d'émerger d'une sorte de tourbillon, parce que c'est vrai que ça a été une immersion dans l'écriture, là, ces deux, trois dernières années totales, parce qu'effectivement, c'est une production relativement lourde, mais j'ai fait ça avec bonheur, avec gourmandise, avec appétit, avec envie, et j'espère maintenant avoir la sagesse, d'une part la sagesse de prendre plus de temps, d'autre part surtout l'opportunité de continuer à être édité, ce qui n'est pas du tout évident dans le contexte actuel. On sait que les librairies ferment les unes après les autres, les maisons d'édition font faillite et les gens ne lisent plus. Donc c'est très 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 compliqué, ça l'était déjà, ça l'est de plus en plus. Donc j'espère de tout cœur avoir encore l'opportunité de continuer à être publié, parce que écrire sans avoir la perspective d'être lu, c'est vraiment très très compliqué, je pense. Alors j'ai cette énorme chance d'avoir quelques maisons d'édition qui me font confiance et qui me demandent de travailler pour eux. J'en suis absolument ravie. Tout ce que je souhaite, c'est que ça continue.
Nous vous le souhaitons, et puis nous le souhaitons aussi. Véronique Biefnaud, je vous remercie pour cet entretien, et je rappelle le titre du roman dont nous avons parlé, « Sous les ruines de Villers », paru dans la série des nouveaux romans de Gare, « Kiss and Read », chez Luc Pire, qui en a dirigé l'édition. Merci Véronique Biefnaud.
Merci.
Les rencontres d'Edmond Morel.